France Inter.
Et à tous, bienvenue en public, public fidèle, dans la cour du cloître Saint-Louis à Avignon pour un deuxième Masque et la Plume consacré à la 77e édition du Festival d'Avignon avec Fabienne Pascot de Télérama, Mélélio du quotidien du médecin, Jacques Nerson de l'Obs et Vincent Josse de France Inter. Il sera question aujourd'hui du songe de Shakespeare, des vagues de Virginia Woolf, de l'homme de Néandertal, d'une effrayante Cendrillon et de pièces qui se donnent dans le off, dans lesquelles jouent notamment Catherine Jacob, Francine Berger et Jean-Jacques Vanier. Mais un mot avant sur le grand absent de ce festival dont on attendait, dont on espérait en tout cas le nouveau spectacle. Je veux parler des émigrants de l'écrivain allemand Sebald, texte que le grand metteur en scène polonais Christian Lupa devait présenter à l'Opéra Grand Avignon, mais il a été accusé de comportements brutaux envers notamment sa traductrice et l'équipe technique de la Comédie de Genève où la pièce se répétait, et Lupa a finalement jeté l'éponge, je crois que c'est une première, à un mois de l'ouverture du festival pour être remplacé au pied levé par un spectacle du nouveau directeur du festival, Thiago Rodriguez. C'est un fait unique dans l'histoire du festival. Beaucoup d'auditrices et d'auditeurs m'ont interrogé sur cette absence et en même temps les raisons de cette absence de Christian Lupa, qui effectivement était très espéré ici à Avignon. Vous avez des explications, Fabienne ?
Alors, Christian Lupa, il a 79 ans, c'est un immense metteur en scène avec sûrement des comportements à l'ancienne, une manière de diriger à l'ancienne, c'est-à-dire une exigence folle, le droit qu'ont tous les artistes de revenir sur ce qu'il a fait, de recommencer. Donc il se heurte dans sa manière même de travailler, qui est celle d'un grand artiste, à des équipes techniques beaucoup plus jeune que lui, de 30-40 ans, qui n'admettent plus certaines choses. Et ils ont raison de ne plus admettre certains comportements. Mais pour moi, je vois ça comme le choc de deux générations. Mmh. Et on a, nous, les professionnels ou les critiques, on a un respect immodéré pour Lupa, ses acteurs aussi d'ailleurs. C'est vraiment la direction du théâtre de Genève et les techniciens qui se sont plaints.
Alors, avec une reprise possible malgré tout, ou plutôt une création possible
à l'Odéon,
au théâtre de l'Odéon à la rentrée.
Voilà, ils ont dû interrompre. Thiago Rodriguez n'avait pas les moyens de reprendre les répétitions, le spectacle n'était pas achevé, pas envie non plus, il s'est solidarisé de la Comédie de Genève, donc le spectacle a été annulé et on espère qu'on pourra le retravailler.
Et Lupa, j'ai vu, est retourné à Cracovie, tout à fait meurtri en même temps. Armel.
Oui, il peut être meurtri parce que c'est pas du tout de sa faute ce qui est arrivé. Et moi, je suis une amie d'Agnieszka Zgieb, sa traductrice. J'ai longuement parlé avec elle. Je l'ai vue à Paris où elle vit en partie. Il n'a jamais été question qu'elle subisse des foudres. Tout le monde se fait engueuler par son patron. Tout le monde.
Engueuler. Moi, je vous engueule pas.
Non. Mais vous êtes
moi
une
maintenant,
exceptionnelle.
Bien que ça change, Armel.
Non,
en relation
mais
au travail.
Laissez-moi parler, Fabienne. Donc, il a au contraire extrêmement respecté et les horaires et les techniciens. Il est extrêmement exigeant, et c'est quand même la direction de la Comédie de Genève et les techniciens qui l'ont poussé dehors. Il n'a pas jeté l'éponge, on l'a foutu dehors et c'est une honte.
Et dans Le Monde, il a déclaré « Je suis rentré chez moi à Cracovie et je me sens abandonné. Mon enfant est mort, j'ai perdu un enfant. » Jacques ?
C'est un gâchis épouvantable, un gâchis humain,
un gâchis artistique, un gâchis économique aussi. Il est très difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Effectivement, la traductrice s'est solidarisée avec Lupa et dit qu'elle n'a jamais voulu qu'il se passe quelque chose comme ça. Maintenant, on n'y était pas. On ne peut que le déplorer, je crois, c'est tout. Alors, il est vrai, il y a une façon de travailler qui appartenait à une certaine génération de metteurs en scène, souvent capricieux, autoritaires, voire dictatoriaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'admet moins. Et je suis d'accord pour une fois avec Fabienne, c'est peut-être tant mieux.
Je rappelle quand même que Les Émigrants est un très, très grand texte qu'on peut lire chez Actes Sud. Vincent.
Oui, même position que Fabienne et Jacques. D'abord, on n'était pas là, donc on ne peut pas décider que Lupa est innocent ou que
on
les techniciens ont raison. On
peut quand même faire confiance à sa traductrice, Agnieszka Gzieb,
on n'était pas sur
le lâche
place.
Pas depuis
C'était
des années.
C'était extrêmement difficile de se prononcer sur cette histoire. On sait que Lupa et que son entourage, effectivement, Armel, tu as raison, le défend et dit qu'il a tout son spectacle en tête comme personne et que donc il est exigeant sur tous les points et qu'effectivement son exigence aujourd'hui ne passe pas.
Et peut-être donc que ces émigrants vont trouver asile à la rentrée au théâtre de l'Odéon. Et on commence avec le songe ici à Avignon d'une nuit d'été de Shakespeare, ou plutôt d'après Shakespeare, mise en scène par Gwenaëlle Morin dans le joli jardin de la maison Jean Villard, jusqu'à demain, 24 juillet, et qui sera repris à la Villette du 27 septembre au 20 octobre, avec deux comédiennes, deux comédiens qui endossent tous les rôles, les quatre amoureux, mais aussi les princes et les fées, dans cette forêt étrange de la Grèce antique où ils passent la nuit. Le songe est le premier volet d'une tétralogie que Gwenaëlle Morin a intitulée « Démonter les remparts pour finir le pont », ce qui est, que vous en conviendrez, très, très avignonnais. Jacques ?
Écoutez, j'ai eu une drôle d'impression, c'est d'assister à un spectacle d'amateurs. Vous savez que dans le songe, il y a plusieurs intrigues entrecroisées, et notamment, à un moment, en dehors des histoires des dieux et des amoureux qui se cherchent, qui se trouvent, qui rompent, qui, etc., il y a un groupe d'artisans d'Athènes qui montent une pièce avec, de façon un peu ridicule, parce qu'ils sont très inexpérimentés, très naïfs. Bien, j'ai eu l'impression que toute la pièce était jouée de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on ne distinguait pas les amoureux des artisans. Tout était assez ridicule, assez moche. Je ne sais pas ce que ce spectacle fait dans un festival professionnel. J'avoue que je ne comprends pas.
Armel ?
Moi, j'ai au contraire beaucoup aimé ce spectacle. J'ai trouvé que c'était un des rares spectacles du Festival Inn qui soit exactement à sa place, c'est-à-dire dans ce jardin de Mons, qui a été autrefois le jardin du festival et où on a passé des années et des années heureuses, où il y a maintenant
et où on a longtemps enregistré Le Masque et la Plume.
Des lectures, enregistré Le Masque et la Plume. Et au contraire, quand Jacques dit que ce n'est pas des bons comédiens, il y a quand même Virginie Colémain qui
ben
est,
oui, mais elle est pas
extraordinaire.
Bien. Personne n'est bien là-dessus.
Juliane Aguéric, Barbara Yon, Grégoire, Mont-Saint-Jean.
Moi, j'ai tout bien pris. Il y a quelque chose de... Il y a quelques années, Gwenaëlle Morin, avant de passer par Lyon, il était à Aubervilliers. Ça s'appelait les laboratoires d'Aubervilliers. On pouvait aller dans son lieu quand on voulait, à n'importe quelle heure du jour et du soir. Il y avait toujours une pièce en train d'être répétée ou jouée. On était acceptés là. Le public d'Aubervilliers était très nombreux. Et il reste quelque chose de cette fraîcheur dans cette mise en scène que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée.
Fabienne.
Ah oui, moi, je suis une inconditionnelle de Gwenaëlle Morin parce que je trouve qu'il rend l'essence même du théâtre, le côté un peu dionysiaque du théâtre, là, à travers Le Songe d'une nuit d'été, qui est quand même quelque chose, une comédie autour du désir, de l'amour, du fantasme,
c'est pas parce qu'on montre des gens en slip qu'il y a du désir sur le plateau.
Oh Jacques.
Le principe de Gwenaëlle Morin, c'est de réduire les classiques au minimum, là, ça dure 1h45, sans décor, sans costume, sans accessoires. Il faut que ça soit joué vite, avec énergie.
Bah, autant pas faire de théâtre.
Mais arrête, parce que, Vincent.
Arrêtez de dire des bêtises. Parce que justement, dans cette énergie, dans cette puissance même des comédiens, le texte, on l'entend
on
autrement.
On l'entend pas.
Mais on si, l'entend autrement.
Les François mots, Victor Hugo,
les mots, les mots dans le corps des acteurs, les corps athlétiques des acteurs. Alors, ils sont habillés, puis après, ils ont chaud. Enfin,
athlétiques,
ils sont
s'il vous plaît.
Ils terminent en maillot de bain, ils luttent contre la chaleur, ils luttent contre les crayons, ils gueulent et tout. Et on sent à la fois la magie du théâtre en train de se faire et l'impuissance du théâtre, parce qu'ils n'arrivent pas à lutter contre les grillons, parce qu'on entend place de l'horloge les musiciens. Et ça, je trouve ça magnifique.
Ce que j'aime beaucoup Fabienne à Avignon, c'est qu'elle est toujours exaltée.
Mais oui, mais on a une chance extraordinaire.
Je pense, comme Vincent le disait la semaine dernière, que vous avez quelques substances qui vous aident à vivre cette exaltation. Vincent,
surtout que Télérama fait des enquêtes sur les journalistes, attention. Eh bien oui, tu as encore fumé ce soir-là. Quel intérêt de faire du théâtre pauvre sur tous les plans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, il y a un texte qu'on ne comprend pas, il y a un texte qu'on n'entend pas. On parle souvent ici au masque des jeunes qui découvrent le théâtre, c'est-à-dire un jeune qui arrive là-bas et qui voit ça, n'a aucune envie de connaître Shakespeare. Aucune envie. Il voit des mecs en slip et des filles en slip qui parce que l'idée c'est qu'il faut. Il est en plein air, mais il lutte contre les cigales. Quel talent, quand même, quelle audace. Ouais, il prend un risque. Hein, on dit ça dans le théâtre. Il prend un risque, il lutte contre les cigales.
C'est pas facile.
Faut pas y aller, mon gars.
Ils sont pas sonorisés.
Non, c'est pas possible.
Pour moi, c'est. Qui ne sont pas sonorisés.
Oui, et alors, en quoi c'est éblouissant si c'est mauvais?
Mais c'est pas mauvais.
Mais c'est pas une performance.
Moi, j'ai trouvé que
ce serait une performance si c'était réussi.
Tout ce qui se racontait sur l'amour était très intéressant.
Mais c'est pas intéressant parce qu'on ne le comprend pas, on ne l'entend pas.
C'est Shakespeare.
Vous savez, Fabienne, Shakespeare est un auteur intéressant.
Souvenez-vous de ce pauvre comédien.
Merci, Jacques. Je ne le savais pas.
Ils sont durs, les garçons.
Le pauvre comédien qui court en slip autour des gradins.
Mais arrête, c'est pas ça.
Si, c'est ça. C'est ce qu'on voit.
Qu'une envie, c'est qu'il se perde.
Vous avez dormi.
Allez, le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, ou ce qu'il en reste, c'est donc mis en scène par Gwenaëlle Morin au jardin de la maison Jean Villard, jardin de Mons. Et la reprise est à la Villette du 27 septembre au 20 octobre. Est-ce qu'il y a peut-être des réactions sur ce nuit d'été, là, oui, le micro va venir vers vous, monsieur, bonjour.
Bonjour. À la différence de toutes les pièces dont vous avez parlé dimanche dernier, je peux vous dire que celle-là, moi, je ne me suis pas ennuyé. Et ça, c'est important. Et j'ai l'impression que plus ça va, je pense notamment à Gosselin, oublie son public. Et c'est vrai qu'on n'a plus les mêmes émotions, on n'a plus les mêmes sensations. Effectivement, il y a un côté, peut-être, dans le songe un peu amateur, mais... Moi, ça me fait plaisir de voir Shakespeare un peu matraqué, ça ne me dérange pas. Et puis, effectivement, on peut facilement caricaturer le songe. Il y a bien plus que ça. C'est vraiment un véritable théâtre populaire. Et je voudrais dire aussi que le théâtre n'a jamais été aussi populaire à Avignon quand il y avait Olivier Py.
Merci de votre intervention et de votre jugement. C'est tout sur Shakespeare. Écrire sa vie, un spectacle de Pauline Bell, d'après Virginia Woolf, qui se donne au cloître des Carmes, comme Julien Gosselin, dont on parlait la semaine dernière. Pauline Bell, qui a porté à la scène l'Iliade et l'Odyssée, Chanson douce de Leïla Slimani, Illusion perdue de Balzac, s'inspire plus de la littérature romanesque que du répertoire dramatique. Ici, donc, elle adapte le roman de Virginia Woolf, Les Vagues, avec les monologues de six amis inséparables pour raconter dans un même mouvement l'éblouissement de l'enfance et le désenchantement de l'âge adulte. Le spectacle sera repris du 26 septembre au 21 octobre au Théâtre public de Montreuil, que Pauline Bell dirige. Puis, le 21 novembre au Parvis de Tarbes. En décembre, ce sera à Toulon, à Châtillon. Et en février 2024, à Dijon. Et puis ensuite à Lyon. Je rappelle aussi, pour les amateurs comme je le suis des Virginia Woolf, que la première traduction des Vagues date de 1937 en français et qu'elle était signée Marguerite Yourcenar. Écrire sa vie, Vincent.
Tu fais bien de parler du livre en soi parce que les livres de Virginia Woolf, quelques-uns en tout cas, sont vendus sur une petite librairie
mobile. Oui, c'est pour ça que je les rappelle. Là.
Oui, en sortant et personne ne les achète parce qu'on voit un spectacle qui ne donne pas du tout envie de lire Virginia Woolf. À mon avis, elle se plante. Pauline Bell, je ne parlerai pas de scandale parce que ça ne fait pas, il n'y a aucun scandale, mais il y a un échec de point de vue qui est de vouloir faire du théâtre d'une œuvre qui ne se propose pas de devenir du théâtre, qui n'est pas en soi dramaturgique, qui est poétique, qui est belle, qui est philosophique, qui est difficile, mais qui ne se prête pas à un récit. Or, j'ai l'impression que, comme dans l'Iliade et l'Odyssée, elle a voulu prendre ce ton épique, ce goût du récit qu'elle a en elle, et que Virginia Woolf ne se prête pas à ça, si bien que cette petite équipée de jeunes beaux, charmants et pas mauvais comédiens, j'ai absolument rien à dire contre eux, ne peut pas nous intéresser, et on décroche dès la première minute. Et j'ai l'impression qu'on est un certain nombre dans ce cas-là à ne pas comprendre finalement le projet.
Et je rappelle que ce texte est très beau et très fort. Fabienne ?
Ah, moi, je suis complètement d'accord avec Vincent. Je n'ai pas accroché du tout. Alors, je suis pourtant une fan de Virginia Woolf.
Et des vagues.
Voilà. Mais je pense que son écriture qui raconte les flux de conscience, qui décrit, qui cherche à décrire tout ce qu'on peut ressentir, ne se prête pas du tout à l'oralité. Elle est rétive à l'oralité. Et donc là, on a une soirée. Ça commence par une fête chez des bourgeois anglais, très snob, très chic, très mondain, philosophe. Moi, j'avais envie de crier pipi caca boudin, quoi.
Pardon ?
Au bout d'une demi-heure, je n'en pouvais plus.
Fabienne Pascaud.
On la découvre. L'exaltation de Fabienne.
Je me suis beaucoup ennuyée. Et surtout, j'ai décroché. Et je crois que je n'ai à peu près rien compris.
Encore ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ?
Mais là, j'aurais aimé.
Fabienne, est-ce
oui,
que
là, c'est grave parce qu'il fallait que je comprenne quelque chose.
Range-toi, Jacques.
Armel.
Oui, ben, je suis d'accord avec mes camarades. C'est une adaptation totalement ratée. En plus, à un moment, elle demande au public d'aller sur le plateau, puis elle le fait repartir. Ce sont des...
Ça s'appelle une vague.
Ce sont des tentatives qui n'ont pas de sens, en fait, et elle échoue totalement. Moi, je ne suis pas aussi fanatique que mes camarades des adaptations en général de Pauline Bell.
L'Iliade et l'Odyssée, c'était un beau travail.
Ah, c'était très bien.
Oui, mais même parce que
Illusion perdue.
Illusion perdue, c'était magnifique.
C'est facile, oui, mais...
Ah, mais magnifique.
Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je n'avais pas aimé tellement ça. Et donc là, au fond...
C'est dommage pour vous, ça.
Je n'étais pas étonnée qu'elle n'y réussisse pas, mais c'est vrai que c'est tellement plat. C'est tellement loin de la pensée des personnages qu'on est triste.
Jacques.
Pauline Bell a effectivement merveilleusement réussi Illusion perdue, mais il faut dire que Balzac est un scénariste merveilleux et
oui, il travaille beaucoup pour l'instant.
Et un dialoguiste merveilleux. D'ailleurs, ça marche,
comme Homer.
Ça marche à la télévision, ça marche au cinéma. À chaque fois qu'on adapte Balzac, pratiquement, ça marche. Alors que Virginia Woolf, c'est une écriture poétique, intime, et qui n'a rien à voir avec le théâtre, et qui ne se prête pas. Alors,
ça dépend, vous souvenez-vous du Orlando magnifique
Je n'étais pas convaincu par la dramaturgie.
Enfin, avec Isabelle Huppert, qui était magnifique.
Moi, je préfère lire Virginia Woolf que voir des représentations de cette écriture qui, à mon avis, n'est pas dramatique, pas une seconde. Les comédiens sont bien, Vincent a eu raison de le dire. Elle fait un bon travail de directrice d'acteur, mais je crois qu'elle a fait un mauvais choix de départ.
Écrire sa vie de Pauline Bell d'après Virginia Woolf, oui, une intervention ici dans le cloître Saint-Louis, où nous sommes, je vous le rappelle, si vous nous prenez en cours de route pour un masque et la plume, spécial Festival d'Avignon. Le micro vient vers vous, madame, bonjour.
Eh bien, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aime beaucoup Virginia Woolf, mais bien sûr, pour moi, c'était nul, mais dès le début, la participation du public, mais j'en aurais pleuré, qui chante une petite chanson, enfin, peu importe. Non, je me suis vraiment ennuyée, je n'ai pas compris. J'ai entendu deux fois le mot « waves », alors je me suis dit, tiens, ben, c'est bien, c'est de Virginia Woolf, à peu près, voilà, mais... C'est nul.
Personne pour sauver et écrire sa vie de Pauline Bell. Et je vous rappelle que ça sera repris à Montreuil en septembre. Et puis après une grande tournée, Tarbes, Toulon, Châtillon, Dijon et Lyon, La Mariée et Bonne Nuit Cendrillon de Carolina Bianchi et son collectif Cara de Cavallo qui s'est joué au lycée Aubanel. Je ne sais pas s'il y a une reprise prévue pour ce spectacle. Vous me le direz peut-être. Pour le coup, je l'ignore. Sous ce titre enchanteur, qui est la première partie d'une trilogie, l'artiste brésilienne nous emmène tout simplement en enfer, puisque c'est celui des viols et des féminicides. Et ce « Bonne nuit Cendrillon », c'est le surnom donné à la drogue du violeur, un espace où le présent s'effondre avec le passé sans prévenir. Spectacle déconseillé aux moins de 18 ans, avec cet avertissement, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public. Donc « La mariée » et « Bonne nuit Cendrillon » de Carolina Bianchi dans le IN. Est-ce que vous avez été heurtée, Armel ?
Non, j'ai pas été heurtée, j'ai été déçue. Je trouve la Carolina Bianchi, que je connaissais pas du tout, c'est elle qui a introduit une espèce de conférence. Elle a une belle personnalité, elle a une belle présence, et ça, vraiment, j'étais intéressée de voir la suite du spectacle. Il y a trois mouvements, donc il y a ce premier mouvement-là qui est vraiment très intéressant, et qui dit bien la personnalité forte de cette femme de théâtre. Et puis ensuite, alors, de nombreux personnages et comédiens et comédiennes arrivent. On nous parle de faits qui vont vous rappeler quelque chose si vous avez vu le 2666 de
Bolaño.
De Bolaño, monté par Gosselin, puisqu'il s'agit de toutes ces femmes assassinées, violées à Ciudad Juárez et dont les morts sont toujours restées mystérieuses. Et puis ensuite, on arrive à un moment qui a un peu fait monter des humeurs de scandale autour de ce spectacle, mais qui...
Il faut expliquer ce que c'est.
Est-ce que j'explique,
Armel?
Oui.
Nos auditrices et auditeurs ne sont pas au courant du tout de ce qui se passe ici.
Une caméra pénètre dans le vagin de la comédienne et les images sont projetées. Nous qui sommes de vieux avignonnais, on a déjà vu des caméras dans le corps des acteurs. C'était notamment Castellucci quand il avait monté, je crois, Jules César.
Oui, c'est vrai.
Et c'était, ça rentrait dans la gorge du comédien qui parlait, et là il y avait un sens très fort, très puissant, on sentait le désarroi, la trahison. Là c'est rien du tout, c'est juste des images, des images gynécologiques.
Oui, sauf qu'elle est endormie.
Oui, non. Oui, alors voilà.
Enfin, c'est quand même elle qui l'a demandé.
Pas à ce moment-là.
Oui, attendez.
Je ne vais pas tout raconter.
Pas tous ensemble.
Voilà. Mais tout ça, j'ai trouvé ça, autant la présence de la fille au début est formidable, autant la fin est ennuyeuse et ne raconte rien.
Jacques.
D'abord, il faut dire que ça parle d'une cause juste, évidemment.
Absolument. Cette drogue, elle existe.
La lutte.
Hein. Oui, bien sûr.
D'abord, cette
elle
drogue existe.
Beaucoup,
d'autre
beaucoup,
part, inventée.
D'autre part, il y a beaucoup de cas, malheureusement, de féminicides et de viols. Et ça parle beaucoup de l'aventure d'une performeuse italienne qui avait fait le pari d'aller de Milan jusqu'au Moyen-Orient en autostop et aussi en tenue de
avec une robe de mariée.
Voilà, dans une robe de mariée. Et il se trouve qu'en Turquie, où sa complice n'avait pas voulu monter avec elle dans la voiture, elle s'est fait effectivement violer.
Sans qu'on sache
violer, tuer.
Exactement dans quelles conditions et sans qu'on ait arrêté le coupable.
Donc cette cause-là, elle est évidemment émouvante. Mais le problème, c'est que l'actrice s'en sert pour satisfaire un histrionisme et un exhibitionnisme personnel très agaçant. J'ai pensé beaucoup à Angelica Lidl. J'ai eu l'impression de me retrouver par moments face à elle.
Mais elle est plus
et
forte.
Et notamment dans un des derniers spectacles d'Angelica Lidl où elle ouvrait les cuisses et exposait son sexe. Eh bien, là, ça va un petit peu plus loin et plus profondément. Mais c'est le même exhibitionnisme. Alors, le scandale, ça serait peut-être intéressant, mais aujourd'hui, rien ne fait scandale. C'est une provocation dans le vide. Personne ne s'émeut dans la salle, personne ne crie, personne. Il n'y a pas de manifestation dans Avignon pour dire il faut arrêter ça, c'est honteux. Personne, tout le monde s'en fout. Alors ça n'a aucun mérite. C'est vraiment inintéressant.
Oui, Vincent.
Moi, je crois que tu te trompes, si je puis me permettre, Jacques.
Ça peut m'arriver.
Le scandale, c'est le viol. Le scandale, c'est pas que cette femme écarte les cuisses et nous montre son intimité. Le scandale qu'elle veut dénoncer, c'est toutes les violences faites aux femmes, y compris le viol de cette Pipa Baca.
Oui, ça, c'est évident.
Le sien.
Et le sien, elle a aussi été violée.
Oui. Et alors
et moi, j'ai vu cette endoscopie comme un viol auquel on assiste en restant sur notre chaise. D'une certaine manière, en étant complice aussi d'un viol. Enfin, ça, c'est un spectacle qui, comme
mais
on
non,
dit,
on n'est pas
m'interroge beaucoup.
Parce qu'on voit des images.
Ce spectacle, très honnêtement, je ne te dis pas que c'est du génie, mais c'est quelque chose qui dérange, qui interroge, qui reste
dérange.
En tête.
Ça ne peut pas interroger,
pas dérangé,
ça dérange
s'il
pas.
S'il vous plaît, pas ensemble. Pas ensemble. Oui, va,
moi, il me pose pas mal de questions. J'ai trouvé son sens du conte, d'abord, très beau. Elle raconte un peu à la Fabrice Drouel. Non, affaire sensible, l'histoire de cette Pipa Baca.
Il l'a raconté.
Toi, tu étais devant mon poste de radio.
C'était bon pour mettre du France Inter sur la.
Peut-être que Fabrice l'a raconté.
Il l'a raconté, oui.
Elle le raconte très bien. Et puis ensuite, ce que je trouve aussi très fort, notamment contre Angelica Lidl, c'est qu'elle ne passe pas en force. Il n'y a pas de violence. Elle n'est pas en train de se scarifier devant nous ou de nous montrer ses règles, comme a pu le faire Angelica Lidl. Il y a un parti pris de la douceur qui est d'autant plus dérangeant que ce qu'elle raconte n'est pas doux.
La douceur, c'est
ils vont faire, quand elle dort avec la drogue, ses compagnons font très attention à elle. Ils la soulèvent, etc. Puis d'un seul coup, une image violente, ils la jettent dans le coffre d'une voiture. C'est une image absolument terrifiante. Donc, je pense que vous serez peut-être pas forcément bouleversé, mais perturbé et dans l'interrogation après avoir vu ça.
Encore une fois, ça s'est joué au lycée Aubanel et je n'ai pas, pour l'instant en tout cas, de preuve qu'il y aura une tournée de ce spectacle. Fabienne.
Oui, moi je suis comme mes camarades, j'ai beaucoup aimé la première partie, je suis déçue par la seconde, même si c'est pour la première fois. Elle s'interroge sur le viol, mais sans dire du mal des hommes, elle se situe par rapport à sa propre souffrance, à sa propre douleur, à cet état sûrement de terreur entre deux eaux. C'est pour ça qu'elle en complicité aussi avec Pippa Bacca, la performeuse assassinée, elle veut aussi, elle, faire une performance. Donc, elle prend cette drogue. Mais tout à coup, ce plat réalisme de l'endoscopie vaginale, moi, j'ai absolument pas compris pourquoi, parce que ça ne m'a pas figuré à un moment le viol, parce que c'est fait avec une telle délicatesse par ces femmes autour d'elles. On a plutôt l'impression d'un accouchement ou d'un avortement. Moi, j'ai pensé à l'avortement post-viol, vous voyez, donc on n'a pas compris la même chose. Et ça, j'ai trouvé, en plus, c'est très laid, tout ce qui se passe, le décor, la scénographie, les acteurs dansent mal, ils bougeotent en costume de squelette, tout ça est ni fait ni à faire. Donc, tout le charme de cette première partie, pour moi, disparaît un peu avec la médiocrité de la seconde, mais j'ai quand même bien aimé cette manière, pour une fois, d'envisager le viol à la première personne et d'essayer de nous faire comprendre ce qu'une femme ressent.
La mariée et bonne nuit Cendrillon, ici à Avignon, de Carolina Bianchi. Des réactions sur ce spectacle? Non. On termine la programmation du IN avec Néandertal de David Gesselson, ou Gesselson si on veut le dire à l'anglaise, mais il est français, qui vient de se jouer au Grand Avignon Vedaine. L'auteur de En route, Kadish, sur son grand-père, de Dorine, sur le penseur écologiste André Gors, et du Silence et la peur, sur Nina Simone, s'inspire ici des travaux du paléogénéticien et prix Nobel Svante Paabo, l'auteur de Néandertal à la recherche des génomes perdus, livre à partir duquel il a imaginé une fiction. Sachez que cet homme de Néandertal sera en décembre à Dijon et l'année prochaine en février à Saint-Denis. Décidément, tout Avignon converge vers Saint-Denis hein, depuis une semaine. En mars à Saintes, en avril à Choisy-le-Roi, ainsi qu'à Reims, et en mai à Lorient. Néandertal, Fabienne.
Alors c'est un projet très ambitieux qu'il a, David Gesselson. Il veut conjuguer la petite et la grande histoire autour du problème Néandertal-Homo sapiens, à savoir on a cru très longtemps que les Homo sapiens sortaient de nulle part, que les Néandertals qui étaient avant avaient complètement disparu. Et donc, pareille croyance pouvait interroger les origines de l'humanité. Lui, il se base, David Gesselson, ou son, sur le fait de dire que les Néandertals et les sapiens, finalement, si on recherche leur ADN, on voit qu'il y a eu métissage et qu'ils ont couché ensemble. Donc, on a tous...
Ah, je me disais aussi, ah oui, ils ont couché ensemble, les Néandertals et les sapiens.
Bon, alors, ça, je vous dis ça, c'est ce que j'ai à peu près compris. Se greffe là-dessus, autour des chercheurs qui cherchent sur ce thème, des histoires d'amour compliquées, avec une chercheuse d'origine juive et israélienne qui veut retourner dans son pays. Tout ça se passe dans les années 86 d'abord. Tout le monde a peur parce qu'il y a eu Tchernobyl. Ensuite, au moment du meurtre, de l'assassinat d'Isaac Rabin, qui remet tous les problèmes du Moyen-Orient en jeu. Donc elle, cette chercheuse qui voulait aller en Israël, ne veut plus aller en Israël. Donc tout ça est follement compliqué, ambitieux. Je n'ai pas beaucoup accroché à tout ça parce que c'est trop, quoi. Il veut parler de l'histoire, il veut parler de la science, il veut parler des origines de l'humanité, il veut parler des rapports intimes, des relations adultères, des pères et des fils, parce qu'il y a encore un père qui a abandonné son fils, qui vient le retrouver in extremis, de la dégénérescence, parce qu'il y a une des chercheuses qui a la maladie d'Alzheimer, qui est en même temps homosexuelle.
C'est oui, trop. Ça fait beaucoup.
C'est trop. Là, je dois dire que j'ai jeté l'éponge, tout en reconnaissant, c'est bien un auteur qui a de l'ambition.
C'est bien joué. Mais c'est très bien d'avoir un auteur qui a de l'ambition et qui surtout sait écrire pour le théâtre, un véritable auteur de théâtre. Je dois dire
qu'on est un peu paumé avec les époques.
Pour moi, mon plus grand plaisir.
Vous avez tout compris,
ce festival IN, c'est évidemment Néandertal.
Ah bon ?
Ah oui, oui. Je trouve c'est une excellente pièce. Je la trouve intéressante. Oui, il y a beaucoup de questions scientifiques, mais comme Marguerite Yourcenar parle de l'alchimie dans l'œuvre noire, c'est pas non plus le fond de la pièce. Le fond de la pièce, c'est évidemment les histoires entre ces chercheurs, des histoires humaines, politiques, des histoires d'amour. C'est magnifique. C'est très très bien joué. Parce qu'en plus, c'est un grand metteur en scène. Et c'est un grand directeur d'acteurs. Je trouve que c'est de loin le meilleur spectacle que j'ai vu pour ma part. Et c'est un spectacle intelligible accessible à tous. Donc vraiment, c'était vraiment le clou et la bonne découverte d'Avignon.
Ah, pour une fois, c'est vrai que je vous sens exalté là, Jacques. Oui. Armelle.
Eh bien, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aussi aimé Néandertal et le travail de David Gieselson, ou Son, je ne sais pas comment on prononce, également comédien dans ce spectacle. Mais moi, au contraire de Jacques, autant l'histoire scientifique m'a passionnée, autant j'ai appris des choses, parce que c'est vrai que je ne vais pas lire ces livres savants et que j'ai vraiment appris des choses, donc j'ai lu d'autres textes sur ces questions-là, autant j'ai trouvé un petit peu encombrantes les questions sentimentales. Je trouve qu'elles recouvrent un peu trop l'action elle-même. Mais en même temps, c'est un projet intéressant, c'est très bien mené, très bien écrit et très bien joué. Donc c'est vraiment une vraie réussite du festival.
C'est la découverte d'un homme de théâtre quand même, oui. Franchement.
Vincent.
C'est un beau spectacle, effectivement, avec une profusion qui, moi, m'a perdu quelquefois. Je trouve que c'est assez complexe sur le plan scientifique. Je demanderai à Armelle, après le masque, de me donner quelques petites explications et de me faire des dessins.
Ben non, mais Fabienne t'a tout expliqué.
Et des graphiques.
Il y a 400 000 ans, ils ont couché ensemble.
Oui, ben, ça dure un petit peu plus longtemps que ça, le spectacle. Et tout ce qui est très scientifique m'a un peu perturbé, peut-être parce que j'étais mauvais en sciences et que c'est le petit élève qui s'est réveillé ce jour-là. En revanche,
tu connaissais quand même le Néandertal et le
Sapiens. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça développe un petit peu. Et les histoires intimes, moi, m'ont intéressé. J'ai bien aimé, justement, le mélange de passion collective et de passion intime. Ça, c'est assez bien tissé. Mais il m'est arrivé quand même un tout petit peu de dormir. Ah.
C'est bien de l'avouer. Néandertal de David Gieselson, ou Gieselson, qui se retrouvera ensuite à Saint-Denis, et avant, en décembre, à Dijon, ensuite en février à Saint-Denis, en mars à Saintes, en avril à Choisy-le-Roi et Reims, et en mai à Lorient. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce spectacle? Oui, une réaction. Le micro vient vers vous, monsieur. Bonjour.
Bonjour à tous. Voilà, il y a un intérêt croissant pour les textes de théâtraux documentaires. Il y en a de plus en plus, il y en a partout. Je trouve que ça faisait partie de cette pièce-là, était dans cet engouement pour le théâtre documentaire. Donc ça veut dire que généralement c'est une suite de sketchs en fait qui sont très incohérents à mon avis. On comprend pas très bien pourquoi on parle d'Israël, c'est très 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 bizarre. Mais chaque moment ce sont des sketchs et c'est un peu agaçant. Et puis bon, du point de vue scientifique c'est dommage parce que c'est pas très bien expliqué. Je suis biologiste moi et c'est pas très bien. Et parce qu'il y a quand même une phrase à un moment, c'est... Les Néandertals et les Sapiens ont couché ensemble à Jérusalem.
Oui, ça arrange tout le monde.
Ça peut étonner, quoi.
Merci pour votre intervention. Une autre intervention ici. Bonjour.
Bonjour. Moi, j'ai adoré cette pièce. Je l'ai trouvée absolument magnifique. C'est aussi mon coup de cœur. Et la scénographie et la manière de raconter plusieurs histoires en même temps... Ça m'a beaucoup fait penser à Tous des oiseaux de Moimade. J'ai trouvé qu'il y avait presque une comparaison à faire de ces deux pièces. Je l'ai trouvé magnifique. La scénographie est très belle, les décors sont beaux, les acteurs sont excellents. Moi, je la recommande vivement.
Eh bien, vous pourrez aller voir dans différents lieux ce Néandertal à la rentrée. On passe au off ici à Avignon avec d'abord Agathe Royal de Jean-Benoît Patricot. Mise en scène aux Gémeaux par Christophe Lidon, et c'est jusqu'au 29 juillet avec Catherine Jacob et Brice Hilleret. Catherine Jacob, c'est Agathe Royal, une diva de la tragédie, ancienne de la Comédie française, qui craque en scène alors qu'elle joue Médée, et elle raconte ensuite sa vie. Elle montre ses blessures aux spectateurs tout en glissant des passages de l'école des femmes de Phèdre, du paradoxe du comédien de Diderot. Est-ce que cette Catherine Jacob, alias Agathe Royal, vous a convaincu, Vincent?
Oui. Tu me regardes avec un petit air coquin. Oui, elle m'a convaincu. Brice Hilleret aussi m'a convaincu dans le rôle de... Si tu veux, c'est deux contrastes. Il y a cette diva insupportable qui en a peut-être même un petit peu assez d'être sur scène. Tout le monde l'adore. Lui, le premier, s'il a voulu faire du théâtre, c'est parce qu'il était... dans une admiration incroyable vis-à-vis d'elle. C'est quelqu'un qui l'a guettée, qui l'a suivie, à qui il a offert.
Et lui joue son partenaire sur scène.
Et on va avoir le contraste très classique entre un petit admirateur qui démarre sur les planches et cette femme sans doute brillante mais insupportable. Donc voilà, c'est une petite comédie légère qui se laisse regarder mais qui ne vaut pas tripette non plus. Enfin, les comédiens sont parfaits. Catherine Jacob, comme Brice Hilleré, qu'on aime beaucoup et qu'on a vu, on vous en parlera avec Armel, dans un autre spectacle beaucoup plus déjanté au Festival Off. Mais c'est une comédie très classique.
Tu n'as pas l'air très convaincue, Fabienne.
Ça démarre plutôt bien, puisqu'on se rend compte qu'elle joue Médée et qu'elle parle à son fils. Alors on se dit, zut, qu'est-ce que c'est que ce fils? Elle en a déjà tué deux, qui c'est celui-là? Et bon, ça, donc c'est un peu piquant au début. Mais bon, c'est toujours les archétypes avec quelques fautes historiques, quelques fautes de date que fait l'auteur Jean-Benoît Tricot, Parizeau ou Patricot.
Jean-Patricot.
Mais sinon, c'est un divertissement qui se regarde parce que les comédiens sont très bons. Le texte, c'est jamais que les éternels cris d'amour envers les divas qu'on soupçonne d'être narcissiques, égoïstes et qu'on découvre solitaires, malheureuses, abîmées par le vide et le rien. Donc, bon, il joue sur ces contrastes-là, mais ça se regarde agréablement.
Armel.
Moi, j'aime beaucoup Catherine Jacob. Je trouve qu'on ne la voit plus assez au théâtre. Elle est remarquable et puis elle est...
Et elle n'en fait pas trop.
Elle est rigoureuse, là. Et à ses côtés, Brice Hilleré, qui joue le soir dans un registre totalement différent. On vous en parlera tout à l'heure, à la fin, peut-être. Moi, si je m'écoutais, j'en parlerais tout de suite.
Non, tout à l'heure.
Voilà, c'est très bien. Puis ça dure une heure, c'est divertissant, c'est de la belle ouvrage.
Jacques.
J'ai été très déçu par la pièce. L'auteur dit qu'il s'est inspiré des souvenirs de Maria Cazares et de Vichefeuillère de Nice Jean.
Oui, rien que ça.
Dayan. Et en fait, il en ressort un personnage pas très intéressant, le personnage de l'actrice. C'est effectivement une série de clichés. Catherine Jacob est assez monotone, je trouve, dans sa façon de jouer. Et Brice Hilleré, que je sais être un comédien remarquable, et pas tout à fait passionnant non plus.
Bon, ça vient du texte.
Il
n'a
pas passé un très bon moment. Oui, oui, je pense que c'est un très bon comédien, Hilleré, ce n'est pas la question. Mais voilà, bon, je ne sais pas.
Vous n'êtes pas très convaincant pour parler d'Agathe Royale de Jean-Benoît Patricot aux Gémeaux. Pas de réaction, j'imagine, sur ce spectacle. Dans le off, toujours la brève liaison de maman de l'Américain Richard Greenberg, dont la pièce « Trois jours de pluie » avait connu un beau succès. On l'avait vu à l'atelier, je me souviens, avec Léa Drucker. Cette brève liaison de maman se joue au Petit Louvre jusqu'au 29 juillet. Elle est mise en scène par Isabelle Starquier, avec Frédéric Andreau, Francine Berger, Anne Le Guernec, Jean-Jacques Vanier, une comédie sur une famille juive new-yorkaise, névrotique, dysfonctionnelle, en gros la famille du masque et la plume, où la grande histoire, celle des Rosenberg, vient troubler la petite histoire d'une famille délirante qui compte des jumeaux homosexuels et une fille qui raconte à son bébé des histoires de l'Holocauste pour l'endormir. Voilà, la brève liaison de maman. Jacques.
Écoutez, j'ai pas du tout aimé cette pièce, que j'ai trouvé plutôt de mauvais goût, et j'étais désolé parce que j'étais personnellement ravi de revoir sur scène Francine Berger, qui a été la plus belle, la plus belle Bérénice que j'ai jamais vue. Et là, bon, bah, c'est dans un texte qui, à mon avis, n'a franchement aucun intérêt et beaucoup de défauts du théâtre américain.
Armel.
Oui, je suis complètement d'accord avec Jacques, c'est-à-dire qu'il y a tous les défauts du théâtre américain, tout le pathos du théâtre américain, mais c'est extrêmement bien joué, tout le monde est formidable, et moi, j'ai, comme Jacques et je crois que tous mes camarades, une dévotion pour Francine Berger, et elle est quand même extraordinaire, parce qu'elle n'a plus 20 ans, elle n'a plus 30 ans, elle n'a plus 50 ans, et elle est, mais extraordinaire. Elle joue, elle est belle, elle est drôle, elle est coquine, elle est... On sent qu'elle savoure ce moment et rien que pour elle et pour l'applaudir, ça vaut le coup.
Fabienne.
Oui, c'est pas un grand texte, c'est sûr, mais c'est à la Woody Allen, quoi. C'est le,
en moins drôle.
Peut-être en moins bon, oui. Mais enfin, c'est cet humour juif new-yorkais un peu déjanté, de famille dysfonctionnelle, comme vous le disiez, Jérôme. Et ça vaut surtout par ce jeu des acteurs. Francine Berger les cheveux courts, courant partout. Elle a 80 ans, elle a l'air d'en avoir 40. Elle est d'une beauté, d'un humour, d'une vivacité. Elle est étonnante, même qu'elle ait accepté de faire ce projet, qu'elle ait eu l'énergie d'y croire à une pièce qui vaut surtout par le jeu, par le rythme, par cette histoire dingue des Rosenberg, dont on ne sait pas vraiment si elle a couché avec le neveu ou pas. Est-ce que lui-même était un espion? On ne sait pas non plus. Enfin, il y a un suspense, je ne dirais pas pinterien, parce que ce n'est pas du tout dramatique, mais qui se réjouit, qui se voit. Le problème, c'est qu'il y a 1500, 1600 spectacles dans le off. Alors, forcément, on choisit par rapport aux acteurs.
Mais on va en parler après, parce qu'on aura le temps de parler d'autres spectacles du off, précisément, qui est, comme tous les ans, d'ailleurs, très, très riche.
Très honnêtement, si mes copains, copines me demandent est-ce qu'il faut aller voir cette pièce, je réponds non. Elle n'est pas indispensable. C'est pas Woody Allen, c'est pas le sacro-saint.
Enfin, le Woody Allen d'autrefois.
Dès qu'on dit humour juif new-yorkais, on a l'impression de parler d'une chose géniale. Non, c'est pas le cas ici, et c'est dommage de voir Francine Berger dans ce spectacle. On l'aime tellement qu'on a envie de la voir dans d'autres choses.
Elle est très bien dedans.
Les décors sont horribles, les costumes oranges. Il n'y a franchement rien à sauver et tout est très superficiel. Tu vois, c'est le défaut parfois, non pas de tout le off, mais de certaines pièces du off, c'est d'aborder, comme la couleur des souvenirs, on en parlait la semaine dernière, d'aborder de façon superficielle des thèmes importants, la relation avec ses enfants, la perte de la mémoire, etc. Rien n'est gratté et je trouve qu'on perd son temps.
C'est La brève liaison de maman de Richard Grinberg et ça se joue ici au Petit Louvre. Ici, vous avez compris, c'est à Avignon. Jusqu'au 29 juillet, pas de réaction sur Cine Réaction. Bonjour madame.
Bonjour. Oui, alors moi c'est une pièce que j'ai adorée. D'une part parce qu'effectivement Francine Berger, qui n'a pas 80 mais 85 ans, est extraordinaire, admirable, de vivacité. Je crois qu'elle est un petit peu à l'origine du projet. Les comédiens sont magnifiques. Les décors, moi, je les trouve simples. Ils ne m'ont pas gênée. Je n'ai pas trouvé, voilà. Et je ne suis pas d'accord sur la profondeur. Alors, autant, effectivement, sur la couleur des souvenirs, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'exposition et peu de nœuds dramatiques. Et là, c'est un texte, effectivement, qui est ciselé, qui fait son effet. Le rebondissement sur les Rosenberg est au bon moment. Voilà. Moi, j'ai passé un très bon moment avec de beaux comédiens. Et puis, je me suis fait plaisir aussi. Alors, on en parlera peut-être après, mais... aller voir une mise en scène d'Anne Le Guernec qui joue aussi dans La brève histoire de maman, une mise en scène qui s'appelle La femme à qui n'arrive presque jamais rien, avec Léonore Schex. Alors voilà, oui, j'anticipe, ça c'était merveilleux. Donc voilà, ce sont deux merveilleux acteurs,
pépite.
Frédéric Andrault aussi. Voilà, un bon moment pour
Merci pour votre intervention. Et donc, La brève liaison de maman, je le disais, aux Gémeaux, au Petit Louvre, pardon, jusqu'au 29 juillet. On a tout à fait le temps de conseiller d'autres spectacles du off. Effectivement, Fabienne le rappelait, c'est 1480, enfin presque 1500 spectacles. C'est très difficile quand même dans ce festival où le in est très clair, hein, très balisé, de se retrouver dans la jungle du off où la proposition est énorme. Vous allez donner des conseils, mais comment est-ce qu'on peut aider les gens finalement à choisir leur spectacle à aller voir dans le off?
Mais là, on va leur dire
que des
bonnes choses.
C'est le bouche à oreille.
Le bouche à oreille.
Et c'est pour ça que ça arrive à créer une communauté de spectateurs qui fait aussi le charme d'Avignon. C'est que j'ai l'impression que les gens se parlent. Quand ils font la queue, moi j'ai été étonnée. C'est vrai qu'on n'a pas été dithyrambique sur Agathe Royal. Mais quand je suis allée voir Agathe Royal, il y avait des spectateurs qui faisaient la queue depuis une heure,
en plein cagnard,
puisque ça se donne à 4 heures. Donc à 3 heures. Bon, ben, ces gens-là, ils se parlent entre eux, ils se donnent des conseils et tout ça. Et c'est comme ça que ça naît. Et c'est aussi la magie d'Avignon, ça.
Et selon vous, c'est un public différent entre le off et le in, ou c'est un public mêlé?
Pour moi, je crois que c'est un public différent qui a envie de se faire son bain de théâtre, qui commence dès le matin tôt, qui n'a peut-être pas les mêmes... il faut dire que dans le in, c'est difficile d'avoir des places, hein, c'est compliqué. Donc c'est peut-être plus accessible d'avoir des places dans le off. Et puis, le spectateur du off, ils ont peut-être plus envie de passer un bon moment que de se prendre la tête aussi dans le in avec la réputation qu'on lui fait nous-mêmes.
Et puis, il y a le plaisir de courir avec un sac à dos d'une pièce à l'autre.
Voilà.
Il y a une sorte de frénésie d'en voir le plus possible.
Et à toutes les heures.
Il y a une gourmandise.
Et à toutes les heures.
On entend aussi beaucoup chez les spectateurs du off, je n'ai pas pris le temps de prendre mes places dans le in au moment où il fallait les prendre. Voilà, je m'y suis pris trop tard. Ça, c'est une phrase qui revient beaucoup.
Alors, venons-en au conseil. On va commencer avec Armel.
Alors, je vais d'abord parler, avant de parler de Brice Hilleré, je vais signaler Euphrate, qui est un texte écrit par une jeune femme absolument extraordinaire qui s'appelle Nil Boska, qui est moitié turque, moitié normande par sa maman, turque par son papa, et qui nous raconte la quête d'elle-même, la quête de ses origines, la quête de que faire de sa vie. C'est très, très, très bien écrit. C'est elle qui joue. Elle est mise en scène par Stanislas Roquette et Olivier Constant. C'est une petite pépite, un des spectacles que j'avais pu voir au Lavoir moderne parisien à Paris pour que ça se donnait un soir ou deux. Et c'est vraiment magnifique. C'est à 12h40 au Train Bleu.
Le conseil de Jacques.
Alors, mon conseil, absolument enthousiaste, ce sont les deux pièces de Pierre Note qui se donnent dans des endroits différents. Il y en a une qui s'appelle « J'ai raté ma vie de tapin en voulant faire l'acteur », qui est d'après son roman « Prostitution », qui est assez osé.
Olé.
Mais j'ai une préférence pour celle qui l'interprète lui-même avec Benoît Giraud, qui s'appelle « Une merveilleuse histoire de sexe dégueulasse », et qui mérite bien ce titre, parce que c'est grossier, c'est obscène, c'est drôle, c'est déchirant. C'est magnifiquement joué par eux deux. Et c'est l'histoire de deux homosexuels de plus de 60 ans qui veulent du sexe sans amour parce qu'ils sont dans la désillusion l'un et l'autre. Et ils commencent par se détester, par s'injurier l'un l'autre. Et ça débouche sur autre chose. C'est très, 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 très intéressant. C'est du théâtre très fort. C'est magnifiquement écrit. Et ça se donne à la Reine Blanche. Et ça sera repris à Paris du 29 novembre au 22 décembre à la Reine Blanche de Paris.
Je conseille pour ma part Tourbillon, comprenez le tourbillon de la vie, un spectacle qui rend hommage à Serge Rezvani, l'écrivain, le peintre, et évidemment l'auteur de chansons immortalisées pour Jules et Jim et Pierrot le Fou par Jeanne Moreau, et porté ici par Isabelle Richard, dont la voix est très belle, et ça se joue à 14h50 au théâtre de l'Arrache-Cœur. Et puis faut-il rappeler que je conseille à nouveau, je l'avais déjà fait à la fin du Masque et la Plume, la biographie épistolaire Jean Villard qui paraît chez Actes Sud, 260 lettres absolument magnifiques de Jean Villard, avec cette lettre notamment de 59 adressée à André Malraux, qui les résume toutes. On ne va pas au peuple le lundi soir et au snob le vendredi, on est au peuple depuis toujours ou jamais. Ou encore cette lettre adressée en 51 à De Bruy Rudel, qui était sénateur. Il s'agit de donner au public populaire des œuvres théâtrales de valeur, interprétées par une compagnie de haute tenue, dans une présentation de qualité, et ce but-là me suffit. Jean Villard, une biographie épistolaire, c'est chez Actes Sud, et c'est une édition établie par Violaine Vielmas. Le conseil de Fabienne.
Alors, on va célébrer les 100 ans de la naissance de Roland Dubillard en décembre 2023. Et il se trouve qu'au Chêne Noir, il y a deux spectacles qui se donnent sur Dubillard. Un que je n'ai pas vu, une comédie qui s'appelle Les Crabes et dont on dit grand bien. Mais un que j'ai vu, que j'ai trouvé admirable, qui est Je ne suis pas de moi. D'après les carnets en marge, le journal personnel que Dubillard a tenu tout au long de sa vie, et qui est adapté et mis en scène par Maria Machado, sa seconde épouse, et Charlotte Escamez. Alors ça vaut surtout pour le texte, bien sûr, d'une poésie de funambule, délicate, morbide, à la fois hantée par l'angoisse d'être, et pleine de fantaisie, pleine de facéties. Là, il y a des histoires de nécrophilie absolument dantesques. Il y a des choses drôles, et c'est joué par deux acteurs athlétiques, qui sont Denis Lavant et son partenaire, dont j'oublie le prénom, Samuel Mercer. Et c'est vraiment formidable parce que moi, Denis Lavant, rien que son visage, rien que le regarder, j'ai toute l'angoisse du monde et le bonheur de vivre face à moi.
Le conseil de Vincent.
Fourmi à 10h au Train Bleu, c'est une mise en scène de Florian Pack avec un texte de Florian Pack qui joue avec Nicolas Schmitt, sont deux ados qui montent tout en haut des immeubles et qui regardent un peu la ville en se demandant ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils ont des rêves, il y en a un qui veut aller en Thaïlande, mais ils n'ont pas d'argent. Alors, un des deux trouve un métier qui a l'air tout simple comme ça, c'est de devenir chauffeur Uber. Et on va voir ce que c'est que la réalité d'un chauffeur Uber, ce que c'est que dépendre de plateformes monstrueuses et qui exploitent et asservissent l'être humain. C'est une vraie réflexion sur la société d'aujourd'hui, sur ce qu'on offre à des gamins de 20 ans. Et est-ce qu'on peut vraiment rêver sa vie quand on a 20 ans ? C'est pas du tout déprimant, c'est une très très belle réflexion sur la société, très fine. Je parlais tout à l'heure de textes superficiels, c'est tout sauf superficiel. J'ai une grande passion, moi, une grande admiration pour Florian Pack, c'est son troisième spectacle. Ça ça se joue au Train Bleu à 10h.
Et du coup, tu n'as pas parlé des tiges.
Oui. On voulait en parler ensemble. Vas-y, on le fait à deux voix.
Alors, à deux voix, après, on va proposer les micros au public, oui.
Ah oui.
Tout de suite.
Vas-y.
Alors,
mais rapidement.
Nous avons parlé de Brice Hilleré. Brice Hilleré, c'est un acteur exceptionnel. Il est encore très jeune, mais il est formidable. Donc, il fait le comédien classique et timide aux côtés de Catherine Jacob. Et il joue à la Mirande, non, comment ça s'appelle ?
Rouge-Gorge.
Le Rouge-Gorge, près de la Mirande, place de la Mirande. Une comédie musicale américaine très, 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 très connue, en fait, qui a même été l'objet d'un film, Edwige. Et il joue le personnage d'Edwige. Il est absolument insensé. Il joue, il est en travesti,
il danse,
il chante admirablement bien. Et je laisse Vincent finir.
Non, parce qu'on parlait de révélation sur scène avec Benjamin Voisin. Là, Brice Hilleré, qui joue depuis longtemps et qui a une formation assez classique, se révèle dans ce rôle d'un transsexuel. Et c'est très beau de voir un acteur qui fait autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. On se dit qu'il a des possibles, énormément de possibles, encore plus que ce que l'on pensait savoir de lui. Et que c'est évident qu'il va pouvoir faire une carrière dans la comédie musicale, dans le théâtre privé, dans le théâtre public, poursuivre une très très belle carrière.
D'autres conseils sans doute ici. Oui, le micro vient vers vous. Bonjour.
Bonjour. Moi, vous parliez de texte qui manquait de profondeur. Et moi, je suis allée voir Je verrai le ciel ouvert. Et c'est poétique et exigeant. Et ça se passe à Jérusalem. Enfin voilà, c'est magnifique.
Mais
voilà.
Dans quel théâtre, s'il vous plaît ?
Au Tremplin.
Au théâtre du Tremplin. Merci pour votre intervention. Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, je voudrais conseiller au Théâtre des Carmes, à 21h30, la saga de Molière. Alors, c'est interprété par une jeune comédienne avec une grande énergie, une grande force, qui vont mettre en scène les dates clés de la vie de Molière. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que c'est de l'anti-Mnouchkine. C'est-à-dire, elles sont adressées au début à Mnouchkine pour avoir des repères sur sa vie, qu'est-ce qu'il faut mettre. Et Mnouchkine les a renvoyées aux archives. Et donc, au début, ils se moquent de Mnouchkine.
Merci, monsieur.
Et aussi,
je suis obligé de vous interrompre parce que.
Et pour finir, il y a une parodie du Masque et la Plume, c'est pour ça que c'est sympa. Donc, c'est nos critiques préférées qui, en 1660, vont critiquer Tartuffe lorsqu'il est représenté. Voilà, alors c'est très, très drôle.
Ça donne envie d'y aller, effectivement. Une dernière intervention, oui, ici, le micro vient vers vous devant, dans la cour du Cloître Saint-Louis.
Je voudrais vous parler du spectacle Loin des Hommes de Vincent Fontaneau, qui est un auteur réunionnais, qui est joué tous les soirs à 20h55 au Théâtre du Train Bleu. C'est la première fois que la compagnie se rend à Avignon. Ça parle d'une rencontre la nuit dans une station-service. Et le fait que cet homme et cette femme se croisent à ce moment-là de leur vie, loin du monde, loin des hommes, ça va faire naître un certain nombre de confidences. C'est un texte très puissant à découvrir au Train Bleu.
Une dernière intervention, monsieur.
En 5 secondes, deux perles portées par Jean-Claude Drouot à la Bourse du Travail, les textes de Jaurès. Et au Petit Louvre, l'art d'être grand-père, un monument poétique, sensible du grand homme au soir de sa vie, donc Victor Hugo. C'est vraiment deux moments d'expression très, très émouvants, très forts.
Merci pour tous ces conseils que vous retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Armel Elliot, Fabienne Pascoe, Vincent Josse, Jacques Nerson pour cette émission, qui était comme chaque semaine présenté par Jérôme Garcin avec une émotion toute particulière puisque c'est le dernier masque que je présente ici à Avignon. Merci, merci au public si fidèle, si fervent de ce festival et merci à toute l'équipe de France Inter, Liviane Selam, Georges Thau, Jean-François Georges, Virginie Lorda et la réalisatrice d'aujourd'hui, Andrea Lechêne. Prochain enregistrement du Masque et la Plume le jeudi 17 août au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris. Deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Je vous dis à dimanche prochain et merci encore sur France Inter, évidemment.